4. Le fort accent du nord de l'épicier avait peut-être du charme, mais ce n'était pas le cas de sa camionnette. Ce n'était pas une boîte automatique, pour commencer. Irène Tassenbaum de Manhattan n'avait plus conduit de modèle de ce genre depuis l'époque où elle était encore Irène Cantora de Staten Island. Et jamais elle n'avait manipulé un levier de vitesse. Jake était assis à côté d'elle, les pieds autour du levier en question, ôté, mâchant toujours ses tranches de dinde sur les genoux. Roland se glissa sur le siège passager en essayant de ne pas grogner quand l'éclair de douleur lui déchira la jambe. Irène oublia de débrayer en démarrant et le véhicule fit un bond en avant puis s'immobilisa brutalement. Heureusement, il parcourait les routes du Maine occidental depuis le milieu des années 60 et ce fut un sursaut modéré de vieille jument plutôt qu'une ruade de jeunes poulains fougueux. Sinon, Chip McAvoy aurait une fois encore perdu au moins l'une de ses splendides vitrines. Otte agita les pattes pour retrouver son équilibre sur les genoux de Jake et cracha sa bouchée de dinde accompagnée d'un juron qu'il avait appris d'Eddie. Irène regarda le bafouilleux avec des yeux ronds et ébahis.
« Est-ce que cette créature vient bien de dire « bordel », jeune homme ?»«
Peu importe ce qu'il a dit », répliqua Jake.
Il avait la voix qui tremblait. Les aiguilles de la pendule sanglier marquaient à présent 4h05. Tout comme Roland, jamais le temps n'avait paru à Jake aussi incontrôlable qu'en cet instant.
« Appuyez sur cet embrayage et sortez-nous de ce trou !»
Heureusement, le mode d'emploi du changement de vitesse était incrusté sur le pommeau du levier et encore déchiffrable. Madame Tassenbaum appuya sur l'embrayage avec sa basket, tortura le levier un instant, puis finit par trouver la marche arrière. La camionnette recula vers la route 7 dans une série de bonds désordonnés, puis s'immobilisa à cheval sur la ligne blanche. Elle tourna de nouveau la clé de contact, comprenant trop tard qu'elle avait encore oublié de débrayer, et l'engin eut encore quelques convulsions. Roland et Jake avaient plaqué les mains contre le tableau de bord métallique et poussiéreux, où un autocollant délavé proclamait « L'Amérique, aimez-la ou quittez-la » en bleu, blanc et rouge. Cette série de sursauts était finalement une bonne chose, car au même moment, un camion chargé de troncs d'arbres. Il fut impossible pour Roland de ne pas repenser à celui qui s'était renversé la dernière fois qu'ils étaient venus ici, apparu en haut de la côte, au nord de la boutique. Si la camionnette n'avait pas sauté en arrière dans le parking de l'épicerie, emboutissant l'aile d'une voiture garée là en s'immobilisant, il se serait fait percuter par le milieu, et très probablement tué. Le camion fit des zigzags, klaxonne hurlant, roulant des nuages de poussière avec ses roues arrière. La créature sur les genoux du garçon. Pour Madame Tassenbaum, elle ressemblait à un croisement bizarre entre un chien et un raton laveur. Se remit à aboyer. Bordel, elle en était presque certaine. L'épicier et les autres clients s'étaient alignés contre la vitrine à l'intérieur du magasin et elle comprit subitement ce que devait ressentir un poisson dans un aquarium.
« Madame, est-ce que vous savez conduire ce truc ou non ?» hurla le gosse.
Il portait une espèce de sac à l'épaule. Il lui rappelait un sac de vendeur de journaux, sauf qu'il était en cuir au lieu d'être en toile et qu'il trimbalait des assiettes à l'intérieur.
« Je sais le conduire, jeune homme. Ne vous inquiétez pas pour ça. »
Elle se sentait terrifiée, et en même temps, est-ce que tout ça ne lui plaisait pas? Elle en avait bien l'impression. Depuis au moins 18 ans, elle n'avait pas été autre chose qu'un objet de décoration appartenant au grand David Tassenbaum, un personnage faire-valoir dans la célébrité croissante de sa vie. La femme qui disait « Essayez donc un de ceux-là, en faisant passer les amuse-gueules pendant les cocktails. Et voilà que subitement elle se trouvait au centre de quelque chose, et elle avait dans l'idée qu'il s'agissait de quelque chose de grande importance.
« Respirez à fond, » dit l'homme au visage tanné par le soleil.
Ses yeux bleus éclatants s'accrochèrent aux siens, et alors il lui fut difficile de penser à quoi que ce soit d'autre. Et cette sensation-là était plaisante, elle aussi.
« Si c'est ça, l'hypnose,
se surprit-elle à penser.
Il devrait l'enseigner à l'école.
Retenez votre souffle, puis relâchez tout. Et ensuite, conduisez-nous au nom de votre père.
Elle prit une grande inspiration, comme il le lui avait recommandé. Et soudain, le jour lui parut plus éclatant, presque aveuglant. Et elle entendit vaguement des voix qui chantaient, des voix charmantes. L'autoradio était-il allumé et réglé sur une émission qui diffusait de l'opéra? Pas le temps de vérifier. Mais quoi que ce fût, c'était agréable. Aussi apaisant que cette profonde inspiration. Madame Tassenbaum appuya sur l'embrayage et redémarra le moteur. Cette fois-ci, elle trouva la marche arrière du premier coup et recula avec une certaine fluidité jusque sur la route. Lorsqu'elle tenta la marche avant, elle enclencha par erreur la seconde au lieu de la première, et le véhicule faillit bien s'arrêter net lorsqu'elle relâcha l'embrayage. Mais alors le moteur parut avoir pitié d'elle. Dans un sifflement de piston en folie et un martèlement frénétique sous le capot, ils prirent enfin la direction du nord, vers la ligne Stoneham-Lovell.
« Vous savez où se trouve le chemin du dos de la tortue ?»
lui demanda Roland. Devant eux, près d'un panneau portant l'inscription « Camping Fantastique », une camionnette bleue cabossée bifurqua sur la route.
« Oui ?»
dit-elle.
« Vous en êtes sûr ?»
La dernière chose que souhaitait le pistolero, c'était se retrouver à perdre un temps précieux à chercher le chemin où vivait King.
« Oui, nous avons des amis qui habitent là, les Beckhart. »
Pendant un moment, Roland chercha l'aveuglette, se rappelant avoir entendu ce nom quelque part, sans se rappeler où. Puis tout s'éclaira. Beckhart était le nom du propriétaire du bungalow où Eddie et lui avaient tenu leur ultime palabre avec John Cullum. Il ressentit un grand coup dans le cœur en repensant à Eddie tel qu'il était lors de cet après-midi d'orage, encore tellement fort et plein de vie.
« D'accord, fit-il, je vous crois. »
Elle lui lança un regard par-dessus le garçon assis entre eux.
« Vous m'avez l'air très pressé, monsieur, comme le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Quel est donc ce rendez-vous important pour lequel vous êtes presque en retard ?»
Roland secoua la tête.
« Ne vous en occupez pas. Contentez-vous de conduire. »
Il jeta un œil à l'horloge du tableau de bord, mais elle ne marchait pas. Elle s'était arrêtée il y avait bien, bien long, ses aiguilles indiquant, bien sûr, 9h19.
« Peut-être n'est-il pas encore trop tard, »
dit-il, tandis que devant eux, incognito, la camionnette bleue s'engageait sur la route. Elle fit un écart sur la ligne blanche et Madame Tassenbaum retint de justesse un bon mot sur les gens qui se mettaient à boire avant 5h du soir. Mais la camionnette bleue opta pour le nord, gravit le flanc de colline et disparut en direction de Lovell. Madame Tassenbaum oublia la camionnette bleue. Elle avait des préoccupations bien plus intéressantes. Par exemple,
« Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question si vous n'en avez pas envie, mais j'avoue que je suis curieuse. Tous les deux, êtes-vous des entrants ?»
5. Brian Smith avait passé les 2 ou 3 dernières nuits avec ses 2 Rottweilers de la même portée, qu'il a appelés mitraille et pistolet, au camping fantastique, juste à la jonction entre Lovell et Stoneham. C'est joli par là, près de la rivière. Les gens du coin appellent la structure branlante en bois qui passe au-dessus le pont fantastique. Et Brian a bien compris qu'il s'agit d'une blague et qu'elle est plutôt bonne, les gars. Parfois aussi, des gens, genre hippies venus des bois de Sweden, Harrison et Waterford principalement, se pointent avec de la drogue à fourguer. Brian aime bien se sentir cool, il aime bien se lâcher, si cela vous sied, et en ce dimanche après-midi, il se relâche justement. Pas complètement, pas comme il aime, mais assez pour que ça lui donne un petit creux. Ils ont des Mars à l'épicerie de Lovell. Rien de mieux qu'un bon Mars quand on a un petit creux.
Il sort du camping et s'engage sur la route 7, sans même jeter un œil à ce qui arrive dans l'autre sens, puis dit « Oups, j'ai encore oublié. » Pas de circulation, heureusement. Plus tard, surtout après la fête du 4 juillet et jusqu'à Labor Day, il y aura des voitures plus qu'il n'en veut, le bled en sera truffé et alors il restera plus près de chez lui. Il sait qu'il n'est pas très bon conducteur. Encore une contravention pour excès de vitesse ou un pet en passant et on va lui retirer son permis pour 6 mois. Encore. Mais cette fois-ci, aucun problème. Rien d'autre sur cette route qu'un vieux pick-up. Et encore, il est à au moins 500 mètres. « Essaie un peu de me rattraper pour voir, cow-boy, » dit-il en gloussant. Il ne sait pas pourquoi c'est « cow-boy » qui lui est venu, alors qu'il avait plutôt « enculé » en tête, comme dans « Essaie un peu de me rattraper pour voir, enculé ». Mais tel quel, ça sonne bien. C'était le truc à dire. Il voit qu'il fait des zigzags et corrige un peu la trajectoire. « C'est reparti pour un tour », s'écrie-t-il, et il part d'un autre gloussement au perché. C'est reparti pour un tour. Elle est bien, celle-là. Il s'en sert avec les filles. Une autre pas mal, c'est de faire tourner le volant à droite, à gauche, pour faire des loopings avec la caisse. Et alors tu dis, « Oh, bon Dieu, j'ai dû trop forcer sur le sirop pour la toux. » Des répliques comme ça, il en connaît un paquet. Une fois, il a même pensé écrire un bouquin qui s'appellerait « Les bonnes blagues pour la route ». Est-ce que ce serait pas génial? Brian Smith qui écrit un livre comme ce King, là-bas, à Lowell. Il allume la radio. Le camion fait une embardée sur le bas-côté moelleux de la route. La poussière vole, mais il ne verse pas dans le fossé. Et il dégote Steely Dan qui chante « Hey, 19 ». Elle est bonne, celle-là. Pour sûr, elle est trop bonne, celle-là. C'est le délire. Il accélère un peu pour coller à la musique. Il jette un œil dans le rétro central et il voit ses chiens, mitraille et pistolet, qui regardent son siège, l'œil brillant. D'abord, il croit que c'est lui qu'il regarde. Peut-être même qu'ils sont en train de se dire que c'est vraiment un gars super, et puis il se demande comment il peut être aussi bête. Il y a une glacière calée derrière le siège conducteur, avec une livre de viande hachée fraîche à l'intérieur. Il a l'intention de la faire cuire plus tard sur son feu de camp au camping. Ouais. Et avec 2-3 Mars pour le dessert, nom de Dieu, qu'est-ce que ça va être cool. Les Mars, c'est trop bon, c'est le délire. « Les gars, oubliez la glacière !» dit Brian Smith au chien qui le regarde dans le rétro. Cette fois-ci, la camionnette tangue carrément. Il traverse la ligne blanche à une vitesse de 80 km/h. Heureusement ou malheureusement, tout dépend du point de vue, il n'arrive à rien en face. Rien ne vient entraver la remontée de Brian Smith vers le nord. « Vous foutez la paix à cette viande, c'est mon casse-croûte !» Il prononce « casse-croûte », comme le ferait John Callum, mais le visage reflété dans le rétro, ce visage qui surveille les chiens aux yeux brillants, c'est celui de Chimmy Ruiz, quasiment trait pour trait. Chimmy pourrait être le jumeau de Brian Smith. 6. Irène Tassenbaum conduisait à présent le camion avec plus d'assurance, levier de vitesse ou pas. Elle regrettait presque de devoir bifurquer à droite dans 300 mètres, parce qu'il lui faudrait de nouveau utiliser l'embrayage pour rétrograder cette fois-ci. Mais c'était bien le chemin du dos de la tortue, droit devant eux, et c'est au chemin du dos de la tortue que ces gars voulaient aller. Des entrants. C'est ce qu'il lui avait dit, et elle les croyait sur parole, mais qui d'autre les croirait? Chip McAvoy, peut-être, et certainement le révérend Peterson, de cette folle église des entrants à Stoneham, mais qui d'autre? Son mari, par exemple? Non, jamais de la vie. David Tassenbaum ne considérait comme réel que ce qui tenait sur une puce électronique. Elle se demanda, et ce n'était pas la première fois ces derniers temps, si à 47 ans, elle était trop vieille pour envisager le divorce. Elle repassa en seconde sans faire trop hurler le moteur, mais alors, au moment où elle allait s'engager dans le chemin, elle dut repasser la première en catastrophe, quand ce vieux pick-up stupide se mit à grogner et à haleter. Elle s'attendait à ce que l'un de ses passagers y aille de sa petite remarque finaude. Peut-être même que le chien mutant du garçon lancerait encore un « bordel ». Mais tout ce que dit l'homme assis sur le siège à côté d'elle fut « ce n'est plus du tout pareil ».
« Vous êtes venu quand, pour la dernière fois ?»
lui demanda Irène Tassenbaum. Elle envisagea de repasser en seconde, puis décida de laisser les choses telles qu'elles. « Tant que ça n'est pas cassé, pas la peine de réparer, comme disait David. »
« Ça fait un moment, » admit l'homme.
Elle n'arrêtait pas de lui lancer des regards en coin. Il y avait en lui quelque chose d'étrange et d'exotique, dans ses yeux surtout, comme s'ils avaient vu des choses qu'elle n'aurait pu imaginer, même en rêve.
« Arrête un peu, » s'exhorta-t-elle. « C'est sans doute un train savate débarqué de Portsmouth, dans le New Hampshire. »
Mais elle en doutait. Ce garçon, il était peu commun lui aussi, avec son espèce de chien croisé exotique, mais ce n'était rien comparé à cet homme au visage hagard et aux incroyables yeux bleus.
« Eddie disait que ça formait une boucle, » dit le garçon. « Peut-être que la dernière fois vous êtes arrivé dans l'autre sens. »
L'homme parut réfléchir à cette hypothèse, puis hocha la tête.
« De l'autre côté, ça donne sur Bridgeton ?»
demanda-t-il à la femme.
« Oui, absolument. »
L'homme aux yeux bleus opina.
« Nous allons chez l'écrivain. »«
Karakiri ?»
fit-elle instantanément.
« C'est une belle maison. Je l'ai aperçue depuis le lac, mais je ne sais pas quelle allait. » »«
La 19, »
répondit l'homme. Ils passèrent devant le numéro 27. En prenant le chemin du dos de la tortue dans ce sens-là, les numéros allaient décroissant.
« Qu'est-ce que vous lui voulez, si ce n'est pas indiscret ?»
C'est le garçon qui répondit.
« Nous voulons lui sauver la vie. »
7. Roland reconnut immédiatement l'allée qui descendait raide, bien qu'il l'eût vue pour la dernière fois sous des cieux noirs et menaçants d'orage, et que son attention eût été alors concentrée sur les taïnes volants et scintillants. Aujourd'hui, nulle trace de taïnes ou d'autres créatures sauvages dans les airs. Les bardeaux du toit de la maison en contrebas avaient été gainés de cuivre depuis sa dernière visite, et la partie boisée qui l'entourait était devenue une vaste pelouse, mais le chemin était le même, avec un panneau indiquant « Karakiri » sur la gauche, et un autre à droite portant le numéro 19 en gros chiffres. Au-delà s'étendait le lac, d'un bleu étincelant dans la lumière vive de l'après-midi. Du lac monta la plainte d'un petit moteur poussé à fond. Roland lança un regard à Jake et les joues pâles ainsi que les yeux écarquillés et effrayés du garçon l'alarmèrent.
« Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Il n'est pas là, Roland. Ni lui ni aucun des membres de sa famille. Il n'y a que le type qui tond la pelouse. »
« C'est ridicule, tu ne peux pas... »
commença Madame Tassenbaum.
« Je le sais !»
lui cria Jake.
« Je le sais, madame !»
Roland regardait Jake avec une fascination totalement transparente et horrifiée. Mais dans l'état dans lequel il se trouvait, ou bien le garçon ne comprit pas ce regard, ou bien il l'ignora complètement.
« Pourquoi mens-tu, Jake ?»
pensa le pistolero. Puis immédiatement... « Il ne ment pas. »«
Et si ça s'est déjà produit ?»
lança Jake. Et oui, il s'inquiétait pour King, mais Roland ne pensait pas que c'était là toute la cause de son inquiétude.
« Et s'il est déjà mort et que sa famille n'est pas là parce que la police l'a appelé ?»«
Ça ne s'est pas encore produit, »
le coupa Roland. Mais c'était la seule chose dont il était certain.
« Qu'est-ce que tu sais, Jake, et pourquoi ne veux-tu pas me le dire ?»
Mais il n'avait pas le temps de s'apesantir là-dessus. 8. L'homme aux yeux bleus avait l'air calme en parlant au garçon. Mais Irène Tassenbaum ne le trouvait pas calme du tout au fond. Et ses voix qui chantaient, qu'elle avait remarquées en sortant de l'épicerie générale d'East Stoneham, elles avaient changé. Leur chant était toujours doux, mais n'y avait-il pas une pointe de désespoir en arrière-plan aussi?
Elle en avait bien l'impression, comme une plainte aiguë qui lui battait aux tempes.
« Comment tu peux le savoir ?»
hurla le garçon du nom de Jake à l'homme, son père, d'après ce qu'elle avait cru comprendre.
« Comment tu peux en être si sûr, putain ?»
Au lieu de répondre à la question du gosse, l'homme du nom de Roland la regarda, elle. Madame Tassenbaum sentit la chair de poule courir sur la peau de ses bras et de son dos.
« Continuez, Saïe, si cela vous sied. »
Elle jeta un regard dubitatif en direction du chemin abrupt qui menait à Karakiri.
« Si j'obéis, je n'arriverai sans doute pas à remonter la côte avec ce tas de ferraille. »«
Il le faudra pourtant, » dit Roland.
9. L'homme qui tendait la pelouse était le serf de King, en déduisit Roland, ou ce qui en tenait lieu dans ce monde. Sous son chapeau, il avait les cheveux blancs, mais le dos droit et le corps vigoureux, portant ses années sans trop d'efforts. Lorsque la camionnette s'engagea dans l'allée qui descendait en pente raide jusqu'à la maison, l'homme marqua une pause, le bras appuyé sur la poignée de la tondeuse. Quand la portière côté passager s'ouvrit et que le pistolero descendit de voiture, il actionna un levier et la machine s'arrêta. Il retira également son chapeau, sans avoir exactement conscience de le faire, nota Roland. Puis son regard enregistra la présence du pistolet accroché à la hanche de Roland et ses yeux s'arrondirent assez grands pour faire disparaître ses pattes doigts.
« Salut, monsieur, » dit-il d'un ton prudent.
« Il me prend pour un entrant, » se dit Roland, « exactement comme elle. »
Et en un sens, c'est ce qu'ils étaient, lui et Jake, des entrants. Seulement, ils avaient débarqué dans un « où » et un « quand » où c'était chose commune, et où le temps filait à toute allure. Roland prit la parole sans laisser à l'homme l'occasion de poursuivre.
« Où sont-ils ? Où est-il ? Stephen King ?» « Parle, homme, et dis-moi la vérité. »
Le chapeau tomba des doigts de l'homme et alla se poser à ses pieds sur l'herbe fraîchement coupée. Ses yeux noisettes, fascinés, se plantèrent dans ceux de Roland, l'oiseau contemplant le serpent.
« Fambly est de l'autre côté du lac, dans la maison qu'ils ont là-bas, chez le vieux Schindler. » Ils font une sorte de fête, faut croire. Steve a dit qu'il irait y faire un tour avec la voiture après sa promenade.
Et d'un geste vague, il désigna une petite voiture noire garée au bout de l'allée, dont on n'apercevait que le nez au coin de la maison.
« Où est-ce qu'il se promène ? Le sais-tu ? Dis-le à cette dame. »
Le vieil homme jeta un regard bref par-dessus l'épaule de Roland, puis revint sur le pistolero.
« Ça serait plus simple que je vous y conduise moi-même. »
Roland sembla y réfléchir, mais pas plus d'une seconde. Plus simple, effectivement, mais plus compliqué d'un autre côté si on considérait que King serait ou sauvé ou perdu, parce qu'ils avaient trouvé cette femme sur la route du cas. Et quel que fût le rôle qu'elle ait à jouer, si mineur fut-il, c'était elle qu'ils avaient trouvée en premier sur le sentier du rayon. Et c'était aussi simple que ça, finalement. Quant à l'importance de son rôle, mieux valait ne pas trop présumer de ce genre de choses à l'avance. Eddie et lui n'avaient-ils pas cru que John Cullum, rencontré sur cette même route, dans la même épicerie à quelques trois roues au nord, ne jouerait qu'un rôle insignifiant dans leur histoire ? Pourtant, ça avait été tout le contraire. Toutes ces réflexions traversèrent sa conscience en moins d'une seconde. Les informations, l'intuition, aurait dit Eddie, s'enchaînèrent avec une efficacité mentale fulgurante.
Non,
répondit-il en désignant la femme du pouce par-dessus son épaule.
Dis-lui, maintenant.